Romains 12 à partir du verset 2 et Job 3 verset 25. Romains 12 verset 2. Qu'est-ce qui est dit? Vas-y.
Ne vous conformez pas au siècle présent.
Oui.
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Par le renouvellement de l'intelligence.
Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
Oui.
Ce qui est bon, agréable et parfait.
Ce qui est bon, agréable et parfait. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25.
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos.
Ni repos. Merci. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, toujours parlant dans le même thème que nous avons abordé depuis sur quel est ton problème, nous allons voir en sous-thème ce matin ce que j'intitule « Faire face aux échecs de la vie avec confiance ». Dis à ton frère « Faire face aux échecs de la vie avec confiance ». Dis ça avec conviction. Encore plus fort. Amen. Faire face aux échecs de la vie avec confiance. Vous savez, j'ai dit à la première session que nous avons eue que face aux difficultés de la vie, les hommes ont des réactions différentes. Les hommes n'abordent pas les problèmes de la même manière. C'est normal parce que nous sommes différents par notre éducation, par notre background, par notre culture, par nos courants de pensée. Donc, naturellement, quand un problème se pose, les réactions que nous avons face à une situation de difficulté diffèrent de personne à personne. Mais en réalité, si nous avons tous pour culture la parole de Dieu, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, alors nos approches vis-à-vis des problèmes ou des situations difficiles devraient normalement être les mêmes. Parce que la Bible nous enseigne tous à avoir une approche ou une attitude face à une situation de difficulté, n'est-ce pas? Mais malheureusement, étant donné que nos façons de voir la vie diffèrent de A à B et de B à C, nous voyons plusieurs manières de réagir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la victoire dans leur quotidien, parce que n'ayant pas toujours la bonne attitude face aux difficultés de la vie. Et ce matin, le Seigneur m'a instruit de partager avec vous comment faire face aux échecs de la vie. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui ont l'aptitude ou qui savent réagir face à une situation de difficulté qui se présente à eux. Alléluia. La première question que nous allons tenter de répondre, c'est pourquoi les échecs de la vie sont destructeurs pour certains et bien sûr constructifs pour d'autres. Pourquoi? Pourquoi certains échecs détruisent la vie de certaines personnes alors que les mêmes échecs construisent ou donnent du volume à la vie d'autres personnes? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu est injuste? Nous allons tenter de comprendre. Deuxième chose que nous allons tenter de comprendre, c'est comment permettre à l'échec de faire de nous de meilleures personnalités. Parce que sûrement, l'échec est toujours pour un but. Quand quelqu'un échoue dans la vie, ce n'est pas juste parce qu'il a échoué, mais s'il comprend tout ce que nous allons dire ce matin, alors il comprendra que il n'y a aucune situation qui arrive à un homme par hasard. Et que tout ce qui arrive à un homme vise un but. Surtout si Dieu le permet. Est-ce que vous savez, beaucoup de gens n'ont pas cette prise de conscience là que Ce que Dieu ne permet pas n'arrive jamais. Quand vous voyez quelque chose qui arrive à un oint, à un enfant de Dieu, ça veut dire Dieu l'a permis. Si la situation n'est pas pour ton bien, Dieu ne le permettra jamais. Alléluia. C'est bon pour tout le monde? La première idée que je vais partager avec vous et que je veux que vous reteniez, que vous écrivez, c'est ceci. Vous devez être convaincu en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est très important, que tous les hommes échouent quelque part dans la vie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'être humain qui peut dire, moi, je n'ai jamais échoué. C'est une conviction importante à avoir. Tous les hommes échouent ou commettent des erreurs dans la vie. Et ceux-mêmes qui réussissent leur vie ou qui ont des victoires ont autant d'échecs à leur actif que ceux qui échouent. Ça veut dire quoi? Quand tu vois un homme qui a réussi, c'est en réalité la succession de certains échecs qui l'ont amené là où il est. Pour dire simplement que l'échec fait partie du processus de la réussite. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Donc, lorsqu'ils sont face à des échecs, ils sont abattus et la vie s'arrête. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, est-ce que quelqu'un peut me dire « Amen, pasteur » ? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tous les hommes échouent. Dans leur parcours vers l'accomplissement de leur destinée, même si tu n'as jamais échoué, je suis venu t'annoncer ce matin que tu vas échouer un jour parce que tu es un homme. Tu es un homme, tu n'es pas parfait. Alléluia. Et parce que tu es un homme et parce que tu n'es pas parfait, il arrivera que dans ton parcours, tu commettes des erreurs. Et que ces erreurs-là t'amènent à l'échec. Il faut l'admettre, c'est très important. Parce que ne pas admettre cela, c'est prendre certaines personnes pour des Superman, et puis le jour où la personne commet une erreur, on dit « Ah !» Non, tous les hommes commettent des erreurs, et tous les hommes dans leur parcours vers la perfection commettront des échecs, ou connaîtront des échecs. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent pour toujours, c'est l'attitude ou l'approche qu'on a vis-à-vis de l'échec. Quand tu vois quelqu'un qui s'en sort, c'est parce qu'il a eu une approche qui est différente de quelqu'un qui ne s'en sort pas. Et ce matin, je suis venu vous convaincre, Église, que tant que nous sommes sur la terre des vivants et que nous allons vers la perfection, tant que nous sommes sur la terre des vivants et que nous marchons vers l'accomplissement de notre destinée, il peut avoir des revers et il aura des revers. Les choses ne seront pas toujours faciles. Mais ce n'est pas parce que les choses ne sont pas faciles que Dieu vous a abandonné. On a vu ici un jour que même quand le potier essaie de fabriquer un vase et que le vase ne réussit pas, le potier ne jette pas l'argile, mais garde l'argile toujours entre ses mains. Ça veut dire, quelque chose peut mal se passer dans ta vie, frère, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, le fait que ça ne marche pas pour toi maintenant n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Malheureusement, on a fait croire aux gens que quand tu échoues ou quand quelque chose ne va pas, Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis venu te dire ce matin, il faut te décomplexer d'avoir échoué quelque part dans la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Alléluia! C'est très important parce que cela t'amènera à avoir l'approche qu'il faut face à l'échec. Donc j'ai dit, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'approche. Et nous allons voir donc ce matin cette approche que vous devez avoir en tant que croyant en Jésus-Christ. Si vous voulez apprendre à réussir vos échecs, La première approche, lis-moi le psaume ou Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7, qu'est-ce qui est dit? Vous connaissez, c'est un passage qui est courant, mais qui est très profond. Proverbe 23, verset 7. Il dit...
Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme.
Car il est comme les pensées de son âme. Il faut souligner cela. On dit, un homme est comme, ou est la reproduction. Un homme est l'image. Un homme est semblable aux pensées de son âme. Ça veut dire, les pensées dominantes qu'un homme cultive finissent par devenir son quotidien. Les pensées qu'un homme chérit, il finit par les devenir. Il finit par les avoir. Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Dites amen. La première approche que vous devez avoir en tant que croyant face à vos échecs ou face à la vie en général, c'est que vous devez apprendre à fixer vos yeux sur ce que vous désirez au lieu de maintenir vos yeux sur ce que vous redoutez. Tu sais, à ce niveau-là, je vais dire certaines vérités. Tu dois apprendre à fixer tes yeux sur ce que tu désires de Dieu et non sur ce que tu redoutes. Nous avons lu tout à l'heure Job. Job a dit quoi? Il dit, c'est ce que je redoute qui m'arrive.
Amen.
C'est ce dont j'ai peur. C'est cela que j'expérimente. En fait, où est le piège? Le piège se situe à ce niveau. Satan travaille pour que les hommes en général gardent leurs yeux sur ce qu'ils redoutent. Et vous allez voir que ça fait spirituel de penser à ces problèmes, de penser à ce qu'on ne veut pas voir dans notre vie. Ah, il faut que je prends de l'âge, il faut que je me marie, parce que vraiment, ce n'est pas bon, hein, tu ne me maries pas. Mais quelqu'un, ça dit, ça ressemble à une inquiétude normale, mais ce n'est pas tout à fait normal. Je ne veux pas échouer, je veux faire comme ça, je n'ai pas envie de faire ça, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, Satan, très souvent, convainc les gens, dans leur réflexion au quotidien, ils mettent l'accent sur ce qu'ils ne veulent pas voir. Par exemple, quand tu parles avec quelqu'un en cul d'âme, ou quand quelqu'un partage avec toi ses inquiétudes de la vie, les premières paroles qu'il va te dire, c'est « Pasteur, vraiment, prie pour moi parce que je n'ai pas envie de rester comme ça. » Tu vois? Mais quand il dit « Je n'ai pas envie de rester comme ça », ses yeux ne sont pas sur le mariage, mais sur ce qu'il redoute. Il n'a pas envie d'être seul. Mais la Bible nous dit, c'est ce que tu redoutes là, c'est ce qui t'arrive. J'ai dit, il est important d'avoir le regard sur ce qu'on désire de Dieu, au lieu d'avoir le regard sur ce qu'on redoute. Pourquoi? Parce que ce qu'un homme redoute canalise ou finit par canaliser son énergie. Ce sur quoi tes pensées sont tous les jours, est-ce qui va rassembler ta force? Ou est-ce qu'il va capturer ta force? Est-ce qu'il va focaliser tes forces? Mais Satan sait que sur une semaine, du lundi au dimanche, si la majorité de tes pensées sont sur « Ah, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire pour payer cette facture? Comment je vais faire pour faire comme ça? Comment je vais faire pour faire comme ça? » À la limite, quelqu'un de normal dira « Mais c'est normal qu'il s'inquiète. C'est normal qu'il cherche à s'en sortir dans la vie. » Mais en fait, il ne vise pas la bonne face. Parce que c'est comme une pièce à deux ou une médaille à deux faces. Il y a ce que Dieu veut pour toi et il y a ce que Satan veut pour toi. Et très souvent, ce que Dieu veut et ce que Satan veut, c'est l'opposé. Et souvent, nos peurs ou nos craintes sont liées à ce que je n'ai pas envie de devenir. Je n'ai pas envie qu'on m'attrape dans ça. Je n'ai pas envie que ça m'arrive. Je n'ai pas envie qu'il y ait problème. Je n'ai pas envie d'aller au divorce. Je n'ai pas envie que ma vie soit comme ça. Je n'ai pas envie. Et vous savez, à un moment donné, à force de méditer sur tout ce qu'on ne veut pas voir dans notre vie, en réalité, c'est ce qu'on voit. C'est pourquoi je dis que c'est subtil. C'est un jeu de mots, mais si tu ne fais pas attention, tu tombes dans le piège. Je ne sais pas si quelqu'un suit ce que je dis. Est-ce qu'on suit ce que je dis? Je vous ai donné l'exemple d'un monsieur qui devait marcher sur une corde. Et tout le temps, il disait, je n'ai pas envie de tomber. Et je vais tout faire pour ne pas tomber. Ah non, je vais passer cette corde-là, mais je ne vais pas tomber. Mais il a passé le temps à dire qu'il fera tout, mais il ne tombera pas. Mais donc, il a parlé plus de « je ne vais pas tomber » que « je vais arriver ». Mais après qu'il soit monté sur la corde, c'est exactement le contraire de ce qu'il a confessé qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'en confessant « je ne vais pas tomber », je sais que je ne vais pas tomber. Je vais passer cette corde. Je ne vais pas tomber moi, je ne vais pas tomber. Mais en le disant, il a canalisé toute son énergie. Ses pensées se sont focalisées ou concentrées sur « je refuse de tomber, je ne veux pas tomber » et il est tombé. Il y a des gens qui réfléchissent parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi même les prières de combat où « au nom de Jésus, ça ne va pas m'arriver, au nom de Jésus, tu vas voir que quelqu'un que Satan séduit, quand tu le vois confesser, toutes ces confessions, c'est ce qui ne va pas lui arriver. Je déclare que je ne vais pas mourir. Je déclare que je ne vais pas faire comme ça. Mais à chaque fois, il est sûr ce qu'il redoute. Il est sûr ce qu'il redoute. Il est sûr. Mais pourquoi ne pas ignorer ce que tu redoutes pour dire, je vais vivre. Laisse, je ne vais pas mourir. Dis, je vais vivre. C'est mieux. Parce que, indifférence. Parce que ça, c'est la même chose. Je ne vais pas mourir. Je déclare que je ne vais pas mourir. Mais c'est la même chose avec, je déclare que je vais vivre. Parce que le contraire de « je ne vais pas mourir », c'est « je vais vivre ». Mais ce qu'il est bon à dire, c'est « je vais vivre » et non, « je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir ». Parce que le problème, c'est qu'à force de dire « je ne vais pas mourir », tu as beaucoup, ça dit, tes yeux sont sur la mort. « Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne serai pas dans un cercueil, ah, je ne vais pas mourir, je refuse de mourir ». Mais à un moment donné, puisque tu parles de « je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir », c'est ce que ta foi va captiver. C'est ce qui va prendre tes pensées. C'est pourquoi vous allez remarquer que souvent les gens rêvent et puis ils viennent te dire, ah, j'ai rêvé mais je t'ai vu dans un cercueil, c'est comme si tu étais mort. La première réaction de la personne à qui on dit un tel rêve, c'est quoi? Il peut dire, je refuse. Mais quand il dit, je refuse ça là, tout ce qu'il va faire, c'est pour avorter la mort là. Seigneur, je déclare que je ne vais pas mourir. Là où ils m'ont mis dans un cercueil, je sors. Seigneur, je ne vais pas mourir. Donc, toutes ces actions sont des actions de peur. Des actions... Il mène ses actions parce qu'il redoute l'information qu'on lui a donnée. Mais la Bible dit, ce qu'un homme redoute est ce qui arrive à sa vie. Pourquoi? Parce que ce que tu redoutes, tu finis par avoir foi en ça. Donc, cette première approche est importante. Et le Seigneur m'a interpellé parce que beaucoup de gens ont toujours le contraire de ce qu'ils confessent parce qu'en réalité, ils ont l'esprit sur ce qu'ils redoutent. Combien de gens, par exemple, qui ne pensent pas à leur échec, qui ne pensent jamais à l'échec, qui disent, moi, oh, j'ai réussi, fini. Qui ne voient pas qu'un jour, est-ce qu'ils ne vont pas tomber malade? Donc, tout ce qu'ils prient, Seigneur, parce qu'il faut faire très attention. Je dis, c'est subtil. Mais c'est comme ça que Satan travaille. Dès qu'elle commence à prendre de l'âge, elle dit, bon, je ne sais pas, il faut que je fasse attention parce que la maladie maintenant là. Et puis tout ce qu'elle fait, c'est en fonction de la maladie. Elle dit, je ne veux pas faire ça, je n'ai pas envie d'avoir ça. Mais alors qu'elle ne met jamais l'accent sur la santé divine. La santé divine et ignorer la maladie. C'est très important parce que ce qui prend tes pensées est ce qui crée la foi dans ton cœur. Et ce qui crée la foi dans ton cœur est ce qui se manifeste dans ton quotidien. Maintenant, si la peur de quelque chose prend tes pensées, c'est exactement ce qui va arriver dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Je souhaiterais que désormais, ce que tu redoutes, faut oublier. Et mets l'accent sur ce que tu attends de Dieu. Je vivrai. J'ai la victoire. Mes affaires marchent. Arrête de parler de ce qui ne va pas ou de ce que tu ne veux pas voir venir dans ta vie. Ce n'est pas utile. Parce que dans tous les cas, tu ne veux pas voir venir. Pourquoi tu en parles? Parce qu'en parlant de ça, tu crées ou tu déclenches le processus de la foi. Tu sais, quand tu ne veux pas quelque chose, ne dis pas la chose. Parce que tu actives un processus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça va pour quelqu'un dans la salle? Est-ce que dans cette église, on peut avoir des gens qui parlent la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut avoir des gens qui confessent la volonté de Dieu? Alléluia! Étudiez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus ne disait jamais ce qu'il redoute. Jésus, quand il dit quelque chose, il appelle ce qu'il veut voir à l'existence. Tu es malade, dis bon, tu es guéri. Jésus ne disait jamais, par exemple, vraiment, je vais prier pour que ça n'arrive pas dans ta vie. Non. Ce qui va arriver là, c'est ce qu'il appelle. Ce qu'il ne veut pas voir là, il ne dit même pas. Il ne fait pas cas de ça. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? À partir d'aujourd'hui, que ce soit l'objet de tes pensées. Il y a beaucoup de jeunes soeurs ici. Quand elles dorment, elles réfléchissent. La pensée dominante, c'est elles ne veulent pas rester seules. Je ne veux pas finir ma vie seule. Oh Seigneur, je ne veux pas finir. Regarde ma vie, oh Seigneur. Tu vois comment je suis seul. Seigneur, c'est difficile. Je ne veux pas. Mais tu vas finir seul. Non, c'est sérieux, hein. Parce que tu ne fais que penser à ça. Tu ne fais qu'avoir peur de ce qui va arriver. Regarde, quand tu prends le miroir, tu as vu, ici, là encore, il est devenu un peu truc. Oh, il faut que je fasse vite. Je suis en train de vieillir. Oh Seigneur, tu vois, là même, je ne sais même pas ma vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sors-moi de ça. Seigneur, il faut que ma vie quand même prenne. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour être là comme ça? Seigneur, il faut que. Et quand c'est comme ça, toutes nos prières sont axées vers quoi? On cherche comment détruire les démons qui font qu'on est encore là. Donc, vous allez voir que ces genres de personnes-là aiment les prières de combat. Aiment tout ce qui tend à détruire leurs ennemis. Parce que pour eux, ils redoutent que ça arrive. Mais comme ils redoutent que ça arrive, automatiquement, ils attribuent ça à des forces extérieures. Ah non, non, non. Pourquoi? Pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Je ne peux pas accepter. Non, 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 non. Il faut que je me batte. Ça là, ce n'est pas bon. Et il parle. Il parle. Non, non, non. Il faut qu'on prie. On va jeûner. On va libérer la puissance de Dieu pour que les démons là nous lâchent. Pourquoi ces choses-là? Et ils le font tout le temps. Mais vous allez vous rendre compte que les gens qui opèrent comme ça là, ils ne s'en sortent pas beaucoup. Donnez-moi un exemple d'une église où on enseigne aux gens tous les jours le combat spirituel, tuez vos ennemis, tuez-les, faites ça, ça, ça. Et puis les gens s'en sortent. Ils ne s'en sortent pas. C'est un cercle infernal. Frère, ce que tu dis souvent, ce que tu entends finit par devenir ta foi et ton mode de vie. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné de parler de lui, d'enseigner aux gens, alléluia, la bonne nouvelle du royaume. De leur dire ce qui est, ce qu'il est venu faire et ce qui va arriver à leur vie. De ne pas ou de ne plus leur dire ce qui s'est passé avant ou ce qu'ils vont devenir, si ça, si ça. Non. Comment Dieu ou là où Dieu les attend. C'est très important. Enseigner aux gens la foi en Dieu. C'est une approche importante qu'il faut avoir. Arrêtez de méditer sur vos problèmes et vos craintes. Parce que dans tous les cas, tes craintes restent tes craintes. Ça ne change pas Dieu. Mais Dieu a plus que tes craintes pour toi. C'est sur ça qu'il veut que tes pensées désormais soient. Hé hey Seigneur, est-ce que avec mon âge là, je vais. Est-ce que Seigneur, je vais avoir mon enfant? Hé hey Seigneur, est-ce que. Au nom de Jésus, que Dieu fasse. Que Dieu fasse, que Dieu fasse. Ah non, que Dieu fasse. Mais ça, ce n'est pas spirituel. C'est une prière de crainte. C'est une prière de crainte. Mais quelqu'un qui ne craint pas, quelqu'un qui a rempli ses idées de quelque chose, il y a des prières, il ne fait plus. Dieu a fait. Et puis il est plein. Parce que ses pensées sont remplies de ce que la promesse dit que qu'il n'y ait pas de femme stérile dans la maison. Il n'est pas question. J'ai ça et il confesse ça. J'aurai la chose. Ça vient parce que c'est ce qui doit arriver. J'ai la chose au nom de Jésus. Mais pas, hey, Seigneur, je ne sais pas. Hein? Oh, j'ai envie de faire ça, mais comment je vais faire? Seigneur, vraiment aide-moi. C'est dur. Dis à quelqu'un, libère-toi de tes craintes. Deuxième approche importante ici que je veux que tu saisisses. Ce que je viens de te dire est très profond. Hein? Ça dit que si tu ne changes pas ta façon d'approcher les choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Deuxième exemple important ici, c'est, j'ai dit tout à l'heure que ce qui nourrit ta pensée concentre ton énergie. Deuxième approche, face à une situation d'échec, il est nécessaire pour vous d'apprendre à considérer l'échec comme un ami et non comme un ennemi. Dis à ton voisin, considère l'échec comme un ami et non un ennemi. Dis ça avec conviction, s'il te plaît. Vous savez, quelle est la différence? Beaucoup de gens dans cette salle, sans s'en rendre compte, considèrent l'échec comme un ennemi. Quand on considère l'échec comme un ennemi, comment on se comporte face à l'échec? L'échec devient réellement un ennemi. Dans le sens où toutes nos erreurs coûtent cher. Toutes nos erreurs sont une question de vie ou de mort. Toutes nos erreurs sont des fardeaux. Je me répète. Quand on considère l'échec comme un ennemi, vous savez, un ennemi, c'est quelqu'un de qui on a peur. Très souvent, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas voir. Donc, lorsqu'on considère l'ennemi comme un échec, alors l'ennemi devient un échec. Alors qu'à la base, quand vous lisez la Bible, j'ai dit, tout être humain né d'une femme est destiné à au moins échouer une fois dans sa vie. Parce que les hommes ne sont pas parfaits. C'est Jésus-Christ seul qui est parfait. Nous allons vers la perfection. Et l'échec dans le processus de notre formation vise toujours un objectif. Mais quand on considère l'échec comme un ennemi, alors on n'en tire pas le bénéfice qu'il faut. Au contraire, on en tire la peine. Parce que face à un échec, je donne un exemple pour que quelqu'un comprenne. Tu as fait une erreur. La considération ou l'approche que tu as vis-à-vis de l'erreur là, va déterminer le poids de peine que tu auras. Donc il y a des gens qui s'infligent des douleurs et chaque erreur qu'ils commettent là, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment 40 jours de jeûne et de prière pour les sortir de la mort. Leur vie chrétienne prend un coup, se casse, se mélange. Ils sont presque même au bord de rétrograder parce que pour eux, il n'est pas question. Pourquoi? Pourquoi? Ils vont pleurer pendant 100 jours. Mais quand on considère l'échec comme un ami, alors l'approche est différente dans le sens où on comprend que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si quelque chose est arrivé, j'ai quelque chose à apprendre. On a une approche différente. Quelqu'un ne dit pas amen dans la salle. Amen. Malheureusement, la plupart des gens, mais ce n'est pas la plupart, les chrétiens ont hérité cela d'un type d'enseignement biblique, d'un type d'enseignement qui, méconnaissant la parole de Dieu à sa profondeur. Moi, je vais vous dire la parole de Dieu, que vous la croyez ou pas, ça ne change pas les choses. Dieu n'est pas un homme. Et vous savez, quand souvent tu expliques la Bible, les gens pensent que c'est parce que tu veux atténuer au péché ou à quelque chose. Non, il n'y a pas à atténuer. L'honnêteté, c'est de dire ce que la Bible dit. D'expliquer les choses comme elles sont pour que les gens comprennent. Mais ne pas rester sur des positions dogmatiques et raconter des histoires. Quelle est le point de vue de Dieu. Regardez un peu. Quand on dit par exemple que Jésus a été crucifié avant la fondation du monde, ça doit te faire réfléchir deux fois. Pour comprendre quelle approche Dieu lui-même a face à vos erreurs. Quelqu'un qui pourvoit, avant même que tu ne commettes l'erreur, il faut bien l'apprécier. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore commencé. Il met la solution, sachant que tu sais que tu vas faire. Attends, quand il venait te chercher, il ne te connaissait pas? Il te connaissait. Il te connaissait, mon ami. Dieu te connaissait. La Bible dit, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Il te connaissait. Il te connaissait. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu me connaît? Donc, quand tu considères l'échec comme un ami, alors tu tires profit de tes situations d'échec pour avancer dans la vie. La Bible dit, tout coopère, tout travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, quand tu vois un enfant de Dieu, si quelque chose est arrivé à sa vie, ça doit travailler pour son bien. Dis amen. Mais quelque chose ne peut pas travailler pour ton bien si la chose-là est ton ennemi. À la limite, tu vas balayer ça et tu vas jeter ça quelque part pour dire pourquoi c'est arrivé. Tu vas pleurer toute ta vie parce que c'est arrivé, alors que peut-être c'est arrivé pour te sauver. Donc tu ne vas jamais tirer le bénéfice de pourquoi c'est arrivé. Est-ce qu'on a bien compris cette approche-là? N'aie plus peur de l'échec. Dis à ton frère, n'aie pas peur de l'échec. Troisième approche importante ici. Considérer les échecs, c'est important, comme momentané et non définitif. C'est-à-dire, échouer n'est pas la fin du monde. Dis ça à ton voisin. Ne rédigez pas de monuments en mémoire de vos échecs. Amen. Pour leur donner des louanges chaque matin. Amen. Parce que si tu as commis une erreur et que tu vas ériger un monument, le monument il est là pour te rappeler que chaque fois que tu vois le monument, ça veut dire que tu as commis l'erreur là. Il y a beaucoup de gens qui ont des monuments à casser ce matin. Amen. Dis amen encore.
Amen.
Dis encore amen plus fort.
Amen.
Parce que tu ne peux pas considérer quelque chose que Dieu ne considère pas. Tu es un pécheur. Frères et sœurs, je ne suis pas venu vous encourager. Je suis venu vous dire comment on fait pour être dans la victoire. J'ai dit que les hommes qui réussissent et ceux qui échouent, ils ont les mêmes expériences. Les deux cas échouent. Qu'est-ce qui fait que l'autre réussit? L'autre réussit parce que son approche, sa perspective vis-à-vis de l'échec est différente. L'échec ne doit jamais être éternel. J'ai l'habitude de vous dire, ne meurs pas où tu es tombé. Dis à ton frère, ne meurs pas où tu es tombé. Tu es tombé, secoue la poussière et lève-toi. Jésus a dit, tu vas quelque part, on ne te reçoit pas, il y a un échec, il dit, secoue la poussière de tes pieds et continue quelque part. Quelque part, quelqu'un va t'accepter. Quelque part, il y a le bonheur qui t'attend. Quelque part, il y a une grâce qui t'attend. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ne meurs pas parce que quelque chose est arrivé dans ta vie. Tu dis ma vie est finie. Ta vie ne peut pas finir aujourd'hui. Tout ce qui t'a arrêté, je déclare ce matin que ce matin tu passes ta limite au nom de Jésus. Je dis, tu passes tes limites au nom de Jésus. Non. Il ne faut pas ériger un monument et passer toute ta vie à rendre hommage à ce monument. Il y a des gens, toute leur vie, chaque fois qu'il y a prière, il va se souvenir. Oh Seigneur, j'ai fait ça. Mais c'est des louanges que tu fais à ton monument là. Tu ne l'as jamais oublié. Les monuments aux morts, là, on fait ça pour souvenir. Il y a des gens qui ont des monuments aux morts dans leur vie. Dans leur pensée, il y a des monuments. Ils ont bâti. Cette erreur-là, je l'ai commis, je ne vais jamais oublier. Et à chaque fois, il vient pour dire au Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Et puis il se torture, il se matraque, il se blesse. Il dit, Seigneur, comme tu vois les gens, on dit les chiites, ils adorent l'imam Ali. Donc il faut qu'ils se flagellent avec des trucs pour blesser leur dos, pour que l'imam Ali soit content. Dis, je refuse. À partir d'aujourd'hui, il y a des phrases qu'on ne doit plus entendre dans ta bouche. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Ça ne changera jamais, pasteur. Ce n'est pas possible. Tu avais raison. Je ne peux pas. Si j'entends ça dans ta bouche, je dis, si j'entends ça dans ta bouche, pasteur, j'ai tout essayé. On n'essaie jamais tout. Tu as fait 100 fois, fais 101. Tu as fait 1000 fois, fais 1001. Dis amen. L'échec n'est pas la fin du monde. Tu ne peux pas arrêter ta vie à un échec. L'échec est passager. C'est quelque chose qui arrive dans ton processus, mais qui ne doit pas marquer la fin de ton processus. Ce matin, il faut que Dieu te guérisse. Je ne peux pas. Moi, je n'aime pas ça. Et j'enseigne ça. Quand je suis avec les enfants là, quand ils disent je ne peux pas, on ne dit jamais je ne peux pas. Comment? On essaie toujours. On essaie toujours. Même quand ça n'a pas marché, on dit non. C'est vrai, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais ça va marcher prochainement. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ce que tu n'as pas pu faire là, tu peux faire. Ne classe jamais un dossier pour dire ça là, je ne peux plus faire ça. C'est une insulte à la divinité. La Bible déclare que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a soufflé dans ton esprit le souffle de vie. Le roi de Dieu est entré en toi pour que tu deviennes un esprit vivifiant. Et toi, face à une création, à un problème quelconque, tu déclares que je ne peux pas. J'ai tout fait, ça ne marche pas. Seigneur, je ne sais pas si vraiment ta divinité à moi, hein, c'est ce que tu es en train de dire. Il faut te repentir ce matin. Il y a des phrases qu'on ne doit plus entendre de ta bouche. Je ne peux pas. Seigneur, c'est trop difficile. J'ai tout essayé. Frère, tant que tu vis, tu peux tout. Vous n'avez pas idée de la capacité que Dieu a donnée aux hommes. Un homme qui comprend la grâce que Dieu lui a faite d'avoir une capacité hors limite est un homme qui fera des exploits. Je n'ai pas d'argent, pasteur, ça ne va pas. J'ai tout essayé, j'ai fait café, cacao, ça ne marche pas. Je suis dans le riz, ça ne marche pas. Pasteur, vraiment, ça ne marche pas. Tu es un paresseux et tu es quelqu'un qu'on doit mettre en quarantaine pour ne pas que tu contamines les autres. Tu as le virus Ebola spirituel. Alléluia! Qu'est-ce qui fait ce bruit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan est un menteur. Il ne veut pas que tu écoutes ce que je dis, mais je vais dire. Satan, tu es un menteur. Dis Satan, tu es un menteur. L'échec n'est jamais définitif. Merci. Quatrième approche importante qu'il ne faut jamais oublier, et tu dois cultiver cela. Considère toujours l'échec de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Tu dois comprendre que l'échec n'est pas le résultat des choses extérieures. L'échec est toujours déterminé par notre réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout ce que tu vois comme résultat physique, ne considère jamais ça comme un échec. L'échec, c'est toi qui décides si quelque chose est échec ou pas. Il faut toujours voir l'échec de l'intérieur et non de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Si tu considères quelque chose comme une expérience et que ce n'est pas de l'échec, ce n'est pas échec. C'est toi seul qui peux dire une situation échec et puis elle devient échec dans ta vie. Donc quand quelque chose ne marche pas, frère, ne dis pas j'ai échoué. J'ai fait une expérience. Je continue mon chemin. C'est ta réaction face à un problème qui détermine si le problème va rester un problème ou il ne restera plus un problème. Quelle est ta réaction face au problème? C'est ça. Quelqu'un peut t'insulter. Tu m'emmerdes, monsieur. Mais ça là, tu peux rendre ça palable. Et puis tu peux aussi ne pas faire palable. Tu peux le regarder, tu ne réagis pas, tu prends ta route. Tu dis Dieu te bénisse, tu continues. Il n'y a pas palable dans la maison. Tu peux dire, mais tu me prends pour qui même? Je vais te montrer que moi, on ne m'insulte pas. Ça ne va pas, ta mère qui est là-bas au village, et puis c'est, ça a commencé. Des tribus vont se battre à cause de ça. Mais palabre qui est venu là, ce n'est pas le « tu m'emmerdes là » qui a créé ça. C'est toi qui as réagi, qui a répondu là, qui a créé. Donc en fait, ce n'est pas ce qu'on te fait qui est le problème. C'est ta réaction qui est le problème. Malheureusement, les gens disent, mais si j'ai réagi, c'est parce que tu as fait comme ça. Revois-toi alors, pour bien réagir désormais. Parce que Dieu te rend responsable de ta réaction. Je dis, Dieu te rend responsable de ta réaction. Tu peux ne pas contrôler quelque chose que quelqu'un fait, mais tu peux au moins contrôler ce que toi tu fais. Quelqu'un peut être fou, mais tu ne vas pas entrer dans sa folie avec lui. Donc si tu réponds à une folie, c'est que tu es plus fou que le fou. C'est pourquoi hein, la réaction est toujours l'élément qui est mis en cause. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis amen avec conviction. Amen. Je vous ai dit ici que Thomas Edison a fait une expérience 50 000 fois. L'expérience a échoué, son collaborateur est venu dire, bon écoute, j'ai tout fait, mais j'ai vu que ça n'a pas marché parce qu'il a vu l'échec de l'extérieur. 50 000 fois on a fait, on ne trouve pas le résultat. Edison dit, moi je ne peux pas te laisser démissionner parce que pour moi, au contraire, on a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, on sait 50 000 façons de faire les choses. Je peux conseiller à quelqu'un 50 000 façons de ne pas faire pour que ça ne marche pas. C'est une connaissance inimaginable. Vous voyez que les approches sont différentes. Quelqu'un qui échoue dans quelque chose sait quelque chose que celui qui n'a pas fait ne sait pas. Toi, au moins, tu sais que quand on fait comme ça, on échoue. Et lui qui n'a jamais eu d'échec, il ne sait pas ce que tu sais. Tu as une expérience. Alléluia! Alléluia! Voilà pourquoi l'approche qu'un homme a face à une situation d'échec est déterminante pour la prochaine étape. Une autre approche, cinquième approche, apprenez à réussir vos échecs. L'échec réussi existe bel et bien. Ça veut dire quoi? Utilisez vos échecs de façon profitable. Chaque fois que vous avez appris de vos erreurs, vous faites un pas vers le succès. Ça veut dire, quand quelque chose de pas bien arrive, il ne faut pas laisser ça partir. Utilise ça bien pour apprendre. Tire les leçons. Pour chaque enseignement que tu tires d'une situation qui t'a blessé, tu avances d'un pas vers le succès. Malheureusement, nous, quand on fait les problèmes, ou bien quand on a des difficultés, on dit, ah, je ne veux plus jamais voir cette situation-là sur mon chemin. Ah, ça a été trop dur. On ne tire rien du tout comme leçon de la situation. Ah, le monsieur là, non. Mais on s'est cogné, tu peux pas comprendre. C'était dur, hein. Et puis on s'arrête là. Comment ou pourquoi j'ai échoué? Pourquoi il y a eu ce drame? Et tu tires les leçons. Pourquoi certaines personnes sont allées 4e mariage, 5e mariage, surtout en Europe? On dit, je suis à mon 10e mariage. Des femmes qui disent ça, oui. Parce qu'elles ont fait un, elles n'ont pas tiré les leçons. Deux, elles n'ont pas tiré les leçons. Ils oublient que Dieu est le Dieu ne change pas, Dieu est le même. Satan ne change pas, Satan est le même. Les hommes ne changent pas, ils sont toujours les mêmes. Sous tous les cieux, les hommes sont les mêmes. Je vous le dis aujourd'hui. Tu regardes quelqu'un, tu le vois, tu dis, oh, il est bien habillé, il doit être un homme différent. Il n'est pas différent. C'est son corps différent. Arrêtez de rêver. Satan ne change pas, l'homme non plus. Frère, les hommes sont les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui met sa confiance dans l'homme, piment va entrer dans ses yeux. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je dis ce matin? Il faut tirer les leçons. Ton premier mariage n'a pas marché parce que tu t'es mal comporté. Tu as quelqu'un, bon, ou bien la femme. Ça n'a pas marché parce que je me comporte comme ça. On m'a toujours dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, dit ça. Ok. Quand je serai en face, parce que ça ne va pas changer. C'est la même personne. Même si c'est une personne différente, c'est la même façon. Là, elle va te dire un jour, je ne suis pas ça ou bien. Donc, il faut tirer les leçons pour que demain, ça marche. Donc, on peut réussir son échec. Et ça, je peux appeler ça, on dit, c'est échouer avec réussite. Échouer avec réussite, c'est échouer en ayant dans sa valise pour la prochaine étape des solutions. Ça dit, tu as échoué, mais dans ta valise, il y a quelque chose que tu n'avais pas quand tu échouais. Ça dit, tu as appris. Et ça, on dit échouer avec réussite. Frère, dans tes relations humaines, il faut apprendre. Tu as fait ça, ça n'a pas marché. Change d'approche. Tu dis ça, tu as une façon de parler à ton mari. Et tu vois que ça ne passe pas. Ton message ne passe pas. Il ne faut pas dire, moi je suis comme ça. Personne n'est comme ça. Dis bon, je change de stratégie. Donc, quand c'est comme ça, tu as appris que c'est parce que je fais comme ça, il n'aime pas ou bien il réagit comme ça. Et à chaque fois, mes objectifs ne sont pas atteints. Donc, je change de stratégie. Donc, j'apprends de mon échec. Je veux réussir l'échec. Parce que tu sais, tu n'as pas le droit, quand quelque chose n'a pas marché, tu n'as pas le droit de recommencer encore. Il faut qu'à la prochaine étape, ça marche. Mais ça va marcher à condition que tu tires les leçons. Que tu tires les leçons. Et à tous les niveaux, frères et sœurs, c'est important de tirer les leçons. Même dans une église, en tant que pasteur, on observe les résultats, la façon dont l'église évolue, et puis on tire les leçons pour dire, j'ai envoyé l'église dans telle direction, j'ai vu la réaction du peuple, et ça n'a pas donné ce que je voulais, je ne vais plus dans cette direction, je vais aller comme ça. Il faut tirer les leçons. Dites amen. Tirez profit de vos erreurs et changez. À ce niveau-là, écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tout le monde fait comme ça. Balance ta main. Tous ceux qui dormaient, réveillez-vous. Parce que je suis sur le point de dire important. Les enfants d'Israël, vous savez, faites très attention. Les gens ne connaissent pas Dieu. Hein. Les enfants d'Israël, quand Dieu les a sortis d'Égypte, Dieu a fait beaucoup de miracles. La mer rouge, la manne qui est descendue du ciel. Toutes sortes de miracles, n'est-ce pas? Mais regardez bien. Les enfants d'Israël ont marché avec Dieu tout ce temps sans jamais connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a traité avec eux avec les miracles. Les miracles ne changent pas les hommes. Dieu peut faire 10 millions de miracles dans ta vie. Tes circonstances vont changer, mais tu restes le même. C'est trop dangereux. C'est dangereux. Et c'est l'un des gros problèmes dans l'église, parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue comme un fast-food où les gens veulent les choses instantanées. Le Dieu de miracles. On veut voir Dieu faire des miracles. On ne voit plus de miracles. Dieu n'a qu'à faire. Donc, ils aiment les types de messages qui sont des types de messages qui tendent à dire Demain à 7h, tu l'auras. Amen. Pourquoi? Ils veulent des miracles. Ils veulent que des choses se passent. Ils veulent voir Dieu. Ils veulent voir les circonstances changer. Donc quand tu prêches, tu leur dis, oui, je déclare que dans 2 jours, c'est la fin de tes problèmes. Il dit, il crie Amen. Comment ça va arriver? Lui ne sait pas. Il veut que dans 2 jours, tout finisse. Et les enfants d'Israël ont opéré comme ça avec Dieu tout le temps. Mais leur mentalité n'a jamais changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi un Dieu qui fait des miracles. Mais à un moment donné, Dieu a dit, il y a un temps pour faire des miracles, mais il y a un temps pour un processus de changement. Maintenant, Dieu les met face aux difficultés de la vie. Parce qu'en réalité, ce qui change un homme, ce sont ses expériences. Mais face aux difficultés de la vie, Dieu veut te donner une expérience. Dieu veut que tu apprennes par expérience. Dieu veut que tu surmontes des obstacles par expérience. Parce que c'est en surmontant des obstacles par expérience que ta mentalité est renouvelée. Il dit dans Romains 12, il dit soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre esprit. Donc Dieu s'attend à ce qu'il y ait un changement de mentalité. Mais en réalité, il n'y a pas de changement de mentalité. Il n'y a pas de transformation dans la vie d'un homme si cet homme-là n'est pas confronté à des expériences dans la vie. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, si tu dois entrer au ciel, tu vas faire face à des montagnes. Et chaque montagne sera destinée à te faire une histoire. Une histoire que tu vas écrire de tes propres mains avec ton Dieu. Vous êtes partenaire. Et puis, tu dis, Seigneur, quand tu vas arriver au ciel, tu vas lire tes actes. Tu diras, Seigneur, j'étais face à la montagne. C'était difficile. Mais à un moment donné, je me suis rappelé qu'il est écrit. Quiconque met sa foi en lui n'est jamais déçu. Et j'ai mis ma foi en toi. Et j'ai vu que la montagne a été ôtée. Ça, c'est ton histoire. Mais si Dieu doit faire tout sans ta participation, tu ne changeras jamais. Comme Dieu veut que tu changes, il va te mettre face à tes responsabilités. Il va falloir que tu réfléchisses. Il va falloir que tu changes. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que tu recherches. C'est ce que tu deviens. Si Dieu veut te donner ce que tu recherches, il va te donner. Mais ça ne l'intéresse pas trop. Parce que dans tous les cas, si tu as donné et que tu ne changes pas, c'est bad pour lui. Donc c'est ce que tu vas devenir, la qui est son battement de cœur. C'est pourquoi, Église, la bonne attitude est importante. Regardez, on a beaucoup grandi, nous tous, face aux difficultés de la vie. Il y a des situations difficiles dans lesquelles nous sommes passés. Même quand on faisait les 10 ans, il y a beaucoup de choses dans lesquelles cette église est passée qui a donné de la maturité à cette église. Cette église n'est plus au même niveau qu'elle était il y a 2 ans, il y a 1 an. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape difficile, on grandit en maturité. On grandit. Quand on est face à l'échec dans un foyer, ça dit, ça doit nous amener à grandir, à devenir mature. Là où on était enfant et puis on a échoué là. Quand on arrive à une autre étape, on n'est plus enfant. C'est un insensé qui se comporte comme il se comportait avant, alors qu'il a échoué. C'est un insensé qui se comporte comme ça. Je disais à un ami pasteur qui est venu me voir avant-hier, il a eu un divorce difficile et il me disait que c'est compliqué pour lui et tout, et qu'aujourd'hui il est en train de prier Dieu pour refaire sa vie. Vous savez, les situations d'échec sont toujours douloureuses. Et c'est ce qu'il me dit. Non, il prie, il cherche que Dieu lui donne vraiment une bonne femme et tout. Il a commencé à me raconter des histoires. J'ai dit, hey! Quand on grandit dans la vie, on atteint certains niveaux, on ne se marie plus par fashion, par la mode. On ne se marie plus. Elle est belle. Oh, ses yeux, quand elle marche, c'est mollet. On dirait des tambourins qui résonnent. Oh Dieu, ses yeux sont comme des biches. Je te giflais tout de suite. Quelle biche. Quand on atteint certains niveaux dans la vie, surtout quand on a échoué, on se marie par raison. Conviction, raison. Objectif. Je dis, arrête-moi ça, mon ami. Et tous ces problème que tu as eu là, tu cherches encore une jeune fille qui va venir se balancer devant toi. Balancer, ça c'est la chair. C'est poussière, ça va retourner à la poussière. Cherche quelqu'un qui peut t'aider à accomplir ta destinée. Quelqu'un qui a Dieu en lui. Frère, il y a femme et puis il y a femme. Pas femme qui va venir s'asseoir dans ta maison pour jouer les lumières. On s'en fout de lumière. Tu t'amènes. Alléluia. Quelqu'un d'intelligent dit amen. Quoi? J'ai dit pasteur, arrête ça. Il dit, et puis je me suis levé. Et puis il dit non. Il dit, mais tu es fâché. Il dit non, je suis fâché. Comment tu peux me dire des trucs comme ça? Là où tu es maintenant, là, ce n'est pas aller prendre une jeune fille pour dire oui, une jeune fille, elles sont là, elles tournent. Eh oui, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Va direct. Parce que tu n'as pas le droit de commettre encore une autre erreur. Ta destinée ne t'intéresse pas. Il dit oui. Je dis, mais si ta destinée t'intéresse, il faut aller prendre une femme intelligente qui peut bâtir ta maison. Non pas une femme qui va renverser la maison. Alléluia. Beauté là, mange pas ça. Hé, hey, mon ami, tu vas habiter avec elle 2 semaines, tu vas même plus voir la beauté là, tu vas plus rien voir du tout. C'est important. Je dis mon ami, c'est ta destinée qui est importante. Identifie quelqu'un qui peut t'aider. Frère, tu sais, dans la résolution d'un problème, fais très attention à qui tu invites dans ta vie. Tu sais, la Bible dit qu'il y a eu un problème à Cana. Cana, c'était un lieu où il y a eu un mariage. Et il y a eu un problème qui s'est présenté à Cana. C'était quoi? Le vin a manqué. Mais quand tu lis la parole, la Bible dit on invita Jésus. Heureusement pour eux, ils ont invité qui? Jésus. Frère, fais attention à qui tu invites dans ta vie. Parce que quand le problème va se poser, c'est là que tu verras si ton invité là, il vaut la peine ou il ne vaut pas la peine. Dis-t'amène. Hey! Hey! Jesus. Mon ami, c'est ce Jésus invité aux noces qui a changé le cours de l'histoire de ce noces. Alléluia. Frère, voilà pourquoi tu ne dois pas permettre à n'importe qui d'entrer dans ta vie. Sous prétexte que oui, c'est mon ami, on est ensemble, on se connaît. Frère, on ne se marie pas pour aujourd'hui, on se marie pour le futur. Frère, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Quelqu'un ne peut pas t'aider, mon ami, qui te laisse là où il est. J'ai dit, pasteur, maintenant il me dit, j'ai compris. J'ai dit, tu as bien compris. Il dit, oui, il a compris. J'ai dit, ok. Il ne faut pas venir me raconter une histoire ici. Souvent, tu vois des gens, ils commettent, ils font échec dans le mariage. Mais il faut les voir aller faire encore d'autres choix. Tu te demandes s'ils sont venus sur la terre là pour échouer ou bien quoi. On dit, quand un serpent te mord, tu vois vers les terres, tu prends la fuite. Frère, il faut faire attention. Tout ce que vous voyez qui brille là, ce n'est pas l'or. Tout ce que vous voyez dans la ville là, ce n'est pas bon. Frère, ce n'est pas bon. C'est ce qui est ici là qui compte. Dans le cœur des gens qui sont assis. Alléluia! Mais ça, là, on ne trouve pas. Je vous dis, ça, là, on ne trouve pas dehors. Hein. Les gens comme ça, on ne trouve pas. C'est dans la présence de Dieu, on les trouve. C'est dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Lis-moi Matthieu 20. Matthieu 20, verset 31. Suivez ici. Matthieu 20, verset 31.
La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent.
Amen.
Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue et le suivirent.
Tu sais, dans ces temps de la fin, Dieu cherche des hommes matures qui font face aux difficultés qui les passent. C'est ça la maturité. Ce n'est pas, j'ai eu 2, 3, 4 miracles, tu viens, tu fais témoignage. J'ai fait comme boum, fais comme boum. Ça là, c'est des bonbons. À un moment, il faut commencer à les refuser même. C'est bon que Dieu fasse avec toi, qu'il fasse sans toi. Parce que quand il fait sans toi, tu n'apprends rien. Mais quand il fait avec toi, tu apprends. Amen. Parce que c'est ce qui reste pour toi. C'est ce que tu apprends là. C'est ce qui reste pour toi. Amen. Les gens qui sont friands de miracles. Il faut quitter dedans. Il faut que Dieu fasse avec toi. Dieu fait des miracles. Mais quand il les fait par ton canal, c'est mieux. Amen. Ils sont restés 40. J'ai dit, mais quand vous lisez dans Nombre, vous allez voir que la Bible dit que c'est seulement Josué et Caleb qui ont survécu au carnage. Ils sont tous morts parce qu'ils n'ont jamais appris à connaître Dieu. Donc face à l'adversité, personne n'a tenu. Parce que là, on va à un point où, regardez aujourd'hui le monde, on va vers la fin des temps. Hein. Les choses vont être tellement difficiles que, à un moment donné, vous allez avoir l'impression que les églises, ça devient difficile. Mais ça va devenir difficile, pourquoi? Parce que beaucoup de gens dans le parcours, sur le cheminement vers l'accomplissement, vers la fin des temps, beaucoup ne vont pas tenir. C'est la même chose qui s'est passée avec Israël là qui va arriver. Beaucoup vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été formés. Ils n'ont jamais réellement connu le Dieu qu'ils professent. Ils cohabitent. Ils collaborent avec lui, mais ils ne le connaissent pas. Parce que Dieu va faire pour toi jusqu'à un niveau, mais il ne fera pas toujours pour toi. À un moment donné, il va s'attendre à ce que tu fasses. Et c'est là où des difficultés vont se présenter devant toi. C'est normal. Quand on est enfant de Dieu, c'est normal. C'est notre quotidien. C'est le test, c'est notre école. Tu passes un moment difficile dans ton foyer, c'est normal. Trouve les ressources et règle ça, et puis avance. Sixième approche importante ici, n'abandonnez jamais à cause d'une situation d'échec. Je dis souvent aux gens, écoutez-moi, quand tu sais, quand tu sais que ça, là, Dieu t'a donné là, tu fais tout pour y arriver. Et je vais vous dire la vérité, tout ce que Dieu donne à un homme n'est pas facile à prendre. Si tu arrives à prendre quelque chose qui est facile, il faut voir si c'est Dieu qui t'a donné ou bien le diable. Les vraies bénédictions là, il y a beaucoup de barrages, de murs qui sont devant. Et tu sais, comme j'ai dit, l'échec n'est rien. Tu sais, l'échec dans un parcours n'est pas la fin. Si tu n'as pas la bonne approche, tu vas faire quoi? J'ai tenté, ça n'a pas marché, je laisse. Non. L'échec doit te faire comprendre que ce qui est caché derrière. Vous savez, quand tu cueilles une orange, prends l'orange et puis mords. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu mords, qu'est-ce qui arrive? C'est amer, non? Mais tu sais pourquoi c'est amer? Parce que ce qui est dedans est bon. Donc la peau qui est au-dessus, autour là, c'est pour décourager les gens qui veulent manger ce qui est dedans là sans effort. Tu enlèves sa veste dans tes yeux, tu enlèves sa veste ici, tu dis mais mon ami, si tu es persévérant, tu vas manger ça bien. Mais frère, Dieu ne va pas te donner ton avenir comme ça pour dire, mon ami, voilà, venir là. Mon ami, il faut se battre. Il faut combattre. Chaque parcelle de terrain, tu dois conquérir jusqu'à prendre ce qui est à toi. Je te dis la vérité. Si tu es quelqu'un, ouais, j'ai essayé, ça ne marche pas, donc je laisse tomber. Frère, tu vas rater le but. Tu vas rater ta destinée. Un échec, c'est rien du tout. directement, c'est rien du tout. Si c'est Dieu qui t'a dit, prends. Mon ami, même si tu as échoué 10 fois, fonce. Est-ce que quelqu'un peut me dire, fonce? Alléluia! À moins que ce ne soit pas Dieu. Si Dieu dit, ce n'est pas moi qui t'envoie là-bas, il n'y a pas de problème. Tu écoutes sa voix et tu fais. Mais si tu es convaincu que c'est Dieu, mon ami, remue ciel et terre, parce que l'échec, c'est rien du tout. L'échec est un tremplin pour aller à la prochaine étape. C'est tout. Alléluia. Mais ne perds pas espoir. N'abandonne pas parce qu'il y a échec. Trop de gens abandonnent vite. Pour rien, ils laissent tomber. Voilà pourquoi les gens ne s'en sortent pas. Parce que vous savez, dans la constance, il y a la puissance. Dans la constance, il y a le pouvoir. Dis amen. Regardez, ce n'est pas facile. Même les pasteurs, le travail qu'on fait ici, c'est difficile. Vous savez, les pasteurs sont les gens qui sont les moins récompensés au monde. C'est Dieu qui s'occupe de nous et puis tu nous vois, tu nous envies. Sinon, je t'assure, demandez aux femmes des pasteurs si c'est facile, elles vont vous dire. C'est pas facile d'être femme de pasteur et puis c'est pas facile d'être pasteur. Ton mari, il est toujours parti, il est avec d'autres personnes, matin, midi, soir. Il est parti. Et puis, c'est compliqué d'être pasteur. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu. Et puis les gens vous payent à monnaie de singe. Tu fais tout, mais en retour, c'est l'ingratitude que les gens te donnent comme récompense. Mais on est là, on tient bon, on continue de travailler, on continue de réfléchir. Parce que celui qui nous a appelés là, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Dis amen. Voilà comment tu dois réagir face à l'échec. L'échec ne doit pas t'arrêter. L'échec ne peut pas t'arrêter. Tu sais, tout problème qu'un homme a, ou toute situation d'échec est toujours liée à quelqu'un ou à une situation ou quelqu'un dedans. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, fais attention à tes amitiés. Tu as échoué, recommence. Dis amen. Ça veut dire quoi, j'ai échoué? Ça veut rien dire. C'est un mot. C'est un mot qui ne veut rien dire. Quand tu regardes, maman bien est là, ils ont mis échec sur son front. Ça ne veut rien dire, c'est un mot. Tu la vois, elle est là. Même si elle a hier, elle a fait quelque chose que ça n'a pas marché. Mais personne ne sait, c'est un mot. C'est dans sa tête que ça se passe. Si elle considère que c'est rien du tout, c'est rien. Et puis elle continue sa route. Mais si elle considère que c'est tout, ça va l'arrêter. Donc la façon dont tu vois la chose là, c'est comme ça, tu vas vivre ça. Un homme est tel qu'il pense. Un homme est l'image de ses pensées. Un homme est le résultat de ce qu'il entretient dans sa tête. Comment tu vois l'échec? Tu as échoué et puis après, continue ta route. Dieu lui n'a pas encore échoué. Mais c'est lui ton guide. Ton guide n'a pas échoué. Et puis encore, ce que je veux dire aux gens pour qu'ils comprennent, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les gars, tu ne peux pas être plus intelligent que le maître. J'arrive à un point où je vais t'expliquer quelque chose. Voyons le sixième point. On a vu le sixième point? Voyons le septième point, on va terminer. Le septième point, c'est que tu dois continuer à croire en Dieu malgré tout. Ça veut dire quoi? Ta foi ne doit pas être liée aux circonstances. Je viens d'avoir une voiture. Ah, on vient de me faire un virement de 50 millions. Et puis tu viens, tu danses, tu glisses comme le gars, James Brown. C'est une foi qui est suspecte. Ta foi doit être au beau fixe malgré tout. Ça va, ça est là. Ça va pas, ça est là. Ça, c'est ça, on appelle un chrétien. Lis-moi un passage important. Dans Romains 4, versets 2 à 5. Écoutez, ça c'est l'un des versets les plus importants de la Bible que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Soulignez ce verset-là et allez étudier ça à la maison. Oui, vas-y. Romains 4, versets 2 à 5.
Que dirons-nous donc?
Oui.
Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture?
Que dit l'Écriture?
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.
Abraham crut en Dieu, Et cela lui fut imputé à juste. Pas au verset 2, regardez ici.
Si Abraham a été justifié par les œuvres,
si Abraham a été justifié par les œuvres,
il a sujet de se glorifier.
Il est en train de dire que si Abraham là, ce qu'il est là, c'est par son travail là, alors lui-même peut s'arrêter pour faire le malin. Continue.
Mais non devant Dieu.
Mais pas devant Dieu. C'est-à-dire, un homme qui pense qu'il peut, qu'il a la force, qu'il peut jeûner, le ciel va descendre, qu'il peut faire quelque chose, il n'a qu'à aller faire son malin là, mais pas devant Dieu. Tous ceux qui pensent qu'ils ont la capacité, ils sont bien, eux ils sont les gens, et puis les autres sont des pécheurs, eux ils peuvent jeûner tout de suite, ils peuvent prier, et puis regarde les autres comme des fourmis. Il dit, allez faire ça ailleurs, pas devant Dieu. Continue.
Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due.
Il dit, celui qui fait là, il a le salaire. Mais le salaire ici, là, ce n'est pas Dieu qui lui donne. Beaucoup de gens ne font pas attention. Ce n'est pas Dieu qui lui donne le salaire. Il récolte en fonction de ses potentialités humaines. Comme il a fait une œuvre là, on regarde, on pèse l'œuvre là, et puis il est payé en fonction de l'œuvre qu'il a faite. Mais, c'est pourquoi il dit non comme une grâce, parce que la grâce vient de Dieu. Oui?
Et à celui qui ne fait point d'œuvre.
Mais qui ne fait point d'œuvre.
Mais qui croit mais en qui celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice.
Ça, c'est l'un des versets les plus importants, à mon sens, dans la Bible. Assois-toi. Il a commencé par notre père Abraham et il est arrivé à nous. Pour expliquer quoi? Pour expliquer que la foi en Dieu, là, n'est pas négociable. Arrêtez d'être dans le légalisme. Parce que je rencontre souvent des gens, oui, hey, pasteur, c'est difficile, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Toutes les résolutions que tu peux prendre, toutes les bonnes résolutions que tu peux prendre là, toi, tu vas casser ça toi-même dans 6 mois. En fait, ce que la Bible est en train de nous dire, la foi doit précéder toute action. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire quelque chose, qu'il ne faut pas faire l'effort de faire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas l'effort qui précède la foi, c'est la foi qui précède l'effort. C'est-à-dire, en tout ce que nous devons faire, la foi est d'abord à l'origine. Je suis ce que je suis parce que Dieu d'abord l'a voulu. Ma foi est en Dieu et non dans les œuvres que je fais. Ma foi est d'abord dans la capacité à Jésus-Christ de m'avoir sauvé de la mort. C'est pourquoi je tiens sur mes pieds. Parce que quand je n'étais pas digne, il m'a aimé. Ce n'est pas maintenant que je suis dans la maison qu'il ne va plus m'aimer. C'est important de le comprendre. Ça va t'empêcher de croupir sous le poids de la culpabilité, sur le poids de « Oh Seigneur, vraiment, je vais mourir. Seigneur, là même, je sais que tu t'apprêtes à me tuer parce que là, je viens de commettre encore une erreur. » Non, frère, si Dieu voulait te tuer, il allait te tuer dans le sein de ta mère. Parce qu'il savait que tu allais faire ce que tu fais là maintenant. Là, il savait. Ou bien il ne le savait pas. Et puis, tu as laissé sortir quand même. Et puis, il a permis que tu donnes ta vie à Jésus quand même. Ce n'est pas une façon de te dire, il faut continuer. Mais c'est une façon de te dire simplement que il faut croire en lui pour avoir la grâce et la force de prendre les décisions qu'il faut pour t'en sortir. Mais tu ne peux pas l'exclure et croire que tu peux décider de t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu ne pourras jamais. Jamais, mon ami, jamais. C'est la foi en Dieu qui donne la capacité à un homme de tenir même les promesses qu'il fait. C'est la foi en Dieu qui donne la capacité à un homme de dire, je ne ferai plus ce péché-là, et puis il ne fait plus. Mais tout le préalable, il faut croire en Dieu. Parce que trop de gens ne croient plus en Jésus. Jésus est le commencement, l'initiateur de la foi, le consommateur de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Quelles que soient les difficultés dans la vie, frère, ne laisse jamais la foi. Parce que beaucoup de gens sont arrivés à un point où ils ne croient plus en Dieu. Parce que la situation est trop dramatique. La pauvre fille, elle est en train d'avoir 50 ans. Depuis là, elle dit, elle prie, elle croit, mais il n'y a rien. Elle prie, elle croit, il n'y a rien. Elle libère la foi pour qu'elle trouve un boulot, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire que les sorciers sont plus forts que Dieu? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu, il répond pas aux prières? Non. Mais pourquoi? Arrivé un moment où elle se dit, mais finalement, crois, là je crois. Mais pasteur, je ne vois rien dans ma vie, pasteur, je ne vois rien. C'est moi qui souffre. Celui qui est à côté de son feu, c'est lui qui sent le feu. Pasteur, tu es loin, tu dis croyez, mais moi je souffre ici parce que depuis je prie, pasteur, je ne vois rien. Pasteur, je suis fatigué de dormir seul. Pasteur, je veux mourir. Pasteur, tu comprends ce que je te dis? Mais je comprends ce que tu dis. Mais on fait quoi? On reste avec lui ou on l'abandonne? On reste avec lui. Tu n'as pas de choix que de rester avec lui. Tu crois que tu as tout fait, mais en réalité, tu n'as pas encore tout fait. Parce que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui te reste encore. Souvent, on est sage à nos propres yeux. J'ai tout fait. Tu n'as pas tout fait, mon ami. Si tu avais tout fait, tu ne serais pas là où tu es. Il y a quelque chose qu'il te faut encore. La foi en Dieu, c'est tout. La Bible dit, celui qui croit en Dieu, sa foi lui est imputée à justice. Il y a deux catégories d'êtres humains sur la terre. Ceux qui font et ceux qui croient. Tu es dans quelle catégorie? Réponds-moi. C'est facile de le dire. En tout cas, moi, je crois en Dieu. On peut tout dire, mais ma foi en Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible de m'enlever ça, parce que c'est ma vie, ma foi en Dieu. Ma foi en Dieu. Parce qu'un homme, vous savez, lisez bien la Bible, mon juste vivra par la foi là. Il n'est pas dit mon juste vivra par la foi jusqu'à un moment, et puis après, il va prendre la relève par ses mains. C'est écrit, mon juste vivra par sa foi. Ça dit quoi? Un homme qui croit en Dieu, Dieu devient celui qui initie le vouloir et le faire. Dieu est celui qui le conduit. Parce que les hommes peuvent te voir et avoir l'impression que, oh, il ne fait pas assez. Mais ce n'est pas vous qui êtes les juges. Moi, je fais confiance en Dieu. Parce que tu sais, juger un homme par les fruits. Jésus a dit, par leurs fruits. Vous saurez qui ils sont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un minimum d'efforts personnels à faire, mais l'effort que tu as à faire, tout ce que tu as à faire pour avancer dans la vie, doit prendre toujours appui sur le fait que je ne suis rien et je ne peux rien faire. C'est Dieu qui fait tout. Malgré tout, garde ta foi en Dieu. Dis à quelqu'un, malgré tout, garde ta foi en Dieu. Arrête de pleurer.